L'actualité des Alpes du Sud avec deux ministres à Manosque aujourd'hui.
La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, et la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, y organisent la 7e concertation régionale pour l'élaboration du projet de loi décentralisation, différenciation et déconcentration.
Plusieurs stations des Alpes du Sud touchées ce week-end par le mouvement social des travailleurs saisonniers contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage.
Une mobilisation en mode opératoire différent selon les stations, mais qui est d'ores et déjà renouvelée pour le 24 février prochain, comme l'a annoncé Éric Becker, secrétaire fédéral de Force ouvrière au transport, en charge des remontées mécaniques et des saisonniers.
Dans l'actualité également, la possibilité d'une fermeture de classe à Vennes, qui inquiète les parents.
Prévenu vendredi dernier du plan de l'inspection académique des Hautes-Alpes qui prévoit de fermer 5 classes dans le département à la rentrée, les parents d'élèves de l'école maternelle de Saint-Marcelin de Vennes tirent d'ores et déjà la sonnette d'alarme.
Et puis le sport, ce sera le bronze pour Stéphane Ricard.
Pour sa 9e participation au championnat du monde de raquettes, le gars pensait à manquer de peu de ramener un 4e sacre mondial. Il monte finalement sur la 3e marche du podium ce dimanche matin à Myoko, au Japon. La météo avec vous, Thierry.
Oui, avec alors pour ce matin, des éclaircies qui alternent avec des passages nuageux sur les Alpes du Sud. Et puis, ça se dégrade cet après-midi avec des températures qui s'échelonnent de 10 à 13 degrés sur les Hautes-Alpes et comptez 12 à 15 sur les Alpes de Haute-Provence. Il y a donc deux ministres à Manosque aujourd'hui.
La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, et la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, y organisent la 7e concertation régionale pour l'élaboration du projet de loi décentralisation, différenciation et déconcentration. Ce projet de loi dit 3D a pour ambition de transformer les relations entre l'État et les collectivités locales sans constituer pour autant un nouveau Big Bang territorial. Dans la lignée de l'action que nous portons depuis plus de 2 ans, il partira des besoins et des projets plutôt qu'une solution définie d'en haut et administrée de manière indifférenciée, indiquent les deux ministres par voie de communiqué.
Et puis dans l'actualité du week-end, plusieurs stations des Alpes du Sud touchées par le mouvement social des travailleurs saisonniers contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage.
Le mode opératoire était différent selon les stations. Par exemple, à Montgenèvre et Serre-Chevalier, environ une centaine de saisonniers ont effectué un débrayage de 2 heures dès l'ouverture du domaine skiable. Aux Aures, on a comptabilisé une centaine de saisonniers qui ont effectué un débrayage de 3 heures. À Orcières-Merlette, environ 40% du personnel s'est réuni dès l'embauche devant les caisses centrales afin de tracter auprès de la clientèle. Côté bas alpin, le mouvement a mobilisé la majeure partie des salariés de Pralou, près de 90% du personnel. À Vars, une trentaine de salariés grévistes étaient sur le front neige dès 8h30, un temps envisagé par certains opposants aux réformes. Le blocage du pont de Savines-le-Lac et de la route nationale 94 n'a finalement pas eu lieu. Samedi, en fin d'après-midi, Éric Becker, secrétaire fédéral de Force ouvrière au transport en charge des remontées mécaniques et des saisonniers, a annoncé la reconduction du mouvement le 24 février prochain au programme des rassemblements de les préfectures et demande d'entrevue.
La possibilité d'une fermeture de classe à Vennes inquiète les parents.
Prévenu vendredi dernier du plan de l'inspection académique des Hautes-Alpes qui prévoit de fermer 5 classes dans le département à la rentrée, les parents d'élèves de l'école maternelle de Saint-Marcelin de Vennes tirent la sonnette d'alarme. Selon le parent d'élèves de l'établissement scolaire Emma Givaudan, le manque d'effectifs scolaires est au cœur de cette décision qui met en danger l'avenir de leurs enfants.
L'univers scolaire est menacé parce qu'une nouvelle fois, l'arithmétique prévoit sur la qualité d'enseignement et la sécurité de nos enfants. Nous, on a mis en place les délégués de Saint-Marcelin et on aimerait aussi les délégués de l'école de Vennes. C'est une pétition. On souhaiterait que toutes les écoles gardent leur classe parce que sachant qu'à Vennes, il n'y a pas de classe pour les faire dormir, il n'y a pas de classe pour les cantines. Et donc, du coup, nos enfants seraient trimballés à droite, à gauche pour manger. C'est la vie de nos enfants, quoi. C'est pas des morceaux de viande. La sécurité, tout est mis en cause là.
Contacté par notre rédaction, l'inspecteur de l'Académie des Hautes-Alpes, Philippe Maheu, a tenu à préciser que rien n'était acté. Cette possibilité de fermeture de classe se place dans le cadre de l'exercice traditionnel de la carte scolaire. Aucune décision ne sera prise avant le Conseil départemental de l'Éducation nationale en mai.
Bilan annuel de la lutte contre la fraude dans les Hautes-Alpes.
Ce jeudi, la préfète des Hautes-Alpes, Cécile Bigot de Kayser, et le procureur de la République de Gap, Florent Crouy, ont co-présidé la séance plénière annuelle du comité opérationnel départemental anti-fraude. L'opportunité de revenir sur cette année 2019 avec une action particulièrement active pour les services de l'État et les organismes locaux de protection sociale concernés. 209 opérations, soit 3 fois de plus qu'en 2018, 771 entreprises et 1734 salariés contrôlés, ainsi que presque 37 000 euros de valeur de stupéfiants saisis par la douane pour 2020. Les actions vont se poursuivre avec une attention particulière sur les fraudes en matière d'environnement et d'économie numérique.
L'Argentière-l'ABC, officiellement classée ville prudente.
Après Savines-le-Lac, c'est l'Argentière-l'ABC qui décroche ce label cette année. En 2018, l'association Prévention Routière, qui valorise les initiatives des collectivités territoriales, a lancé ce label pour récompenser les communes qui développent une politique active en prévention routière. Ce lundi, l'association Prévention Routière, accompagnée de Patrick Venn, maire de l'Argentière-l'ABC, vont poser lors d'une cérémonie le panneau ville prudente installé à l'entrée de la ville. Un label obtenu depuis novembre, mais comment une ville peut l'avoir? Réponse avec Olivier Capgras, directeur régional sud et Corse de l'association Prévention Routière.
La ville a posé une candidature, a posé un dossier, a été analysé par des jurys de l'association, mais également externe. La ville a été déclarée la délisade, et ensuite une visite qui a été organisée, une visite de terrain, avec un représentant de l'association qui est venu passer du temps sur la commune pour regarder un petit peu tous les aménagements, tout ce qui a été fait. Et ensuite, suite à ça, un rapport a été fait. Et là, un jury a statué pour attribuer le label et le nombre de cœurs. Ce label, c'est un réseau de villes partenaires avec qui on peut engager des actions dans le long terme. Et pour eux, ça valorise tout simplement leur action, leur engagement pour lutter contre la sécurité routière.
Des propos écrits par Damien Denis. Notez que le gouvernement a pour objectif d'atteindre moins de 2000 tués sur les routes en 2020.
Et on connaît la dernière qui sera là pour les enfants du jazz à Barcelonnette. Il s'agit en fait de la chanteuse Ayo.
Après The Dire Straits Experience et Caravan Palace, les amoureux du Festival des Enfants du Jazz à Barcelonnette attendaient avec impatience la présentation du dernier artiste au programme. Et l'heureux élu est la chanteuse Ayo. 8 ans après sa première venue dans les Alpes de Haute-Provence, l'artiste folk soul allemande revient avec un nouvel album sorti le 31 janvier dernier. Rendez-vous donc au parc de la Sapinière de Barcelonnette le vendredi 24 juillet prochain.
Alpes 1 Sport. Alpes 1 Sport.
Et ce sera donc le bronze pour Stéphane Ricard.
Pour sa 9e participation au championnat du monde de raquettes, le Gapensé a manqué de peu de ramener un 4e sacre mondial. Il monte finalement sur la 3e marche du podium ce dimanche matin à Myoko au Japon, derrière les deux Espagnols Nacho Hernando et Roberto Luis, mais devant le grand favori américain Joseph Gray. C'est parti extrêmement vite sur le premier kilomètre, c'était vraiment dur physiquement, la tête a rapidement pris le relais. Je suis donc satisfait de cette médaille si loin de France. L'année commence bien, commentait le haut alpin à l'issue de la course. Le Français poursuivra sa saison hivernale dès la semaine prochaine au Canada avec la Coupe du Monde de triathlon d'hiver.
Et puis, difficile week-end pour Sébastien Ogier en Suède.
Victime d'une casse amortisseur ce samedi, le champion champsaurin n'a fait que limiter la casse en finissant au pied du podium et en terminant 3e de la Power Stage qui lui garantit une belle place au départ du prochain rallye qui se déroulera au Mexique. Net dominateur face à des poursuivants distancés dès le premier jour, Elfyn Evans, le coéquipier d'Ogier, a remporté ce rallye scandinave et prend par la même occasion la tête du championnat du monde.
Et quand le sport met en valeur un territoire?
C'est l'idée du challenge des trails de Géoparc. Cette année, le territoire du Géoparc UNESCO de Haute-Provence s'étend à 6 communes de moyenne durance et une du Sisteron-et-Buëch. Il s'agit donc de fédérer différentes courses existantes sous la bannière du Géoparc. Le but, participer à la promotion de ces événements et du territoire. Jean-Simon Page, directeur du Géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence, au micro de Michel Bonnefoy.
Il y a 3 épreuves qui sont inscrites au challenge. L'escalot, qui est un trail de 25 km sur la commune de l'Escale. 23 février, donc c'est très vite, inscrivez-vous, ne ratez pas ce rendez-vous. Ensuite, le suivant, c'est la Perce Roche au départ de Sisteron le 26 avril. Très belle épreuve également. Et la troisième, c'est un peu plus tard, c'est le 15 août, c'est le trail de Dormillouze. Et sur le trail de Dormillouze, où il y a plusieurs épreuves, puisque ça va du 10 au 42 avec une course enfant, je crois, on a choisi là aussi celle qui est aux alentours de 25 km, de façon à ce que les 3 épreuves qu'on a retenues soient homogènes. Et on a choisi ce format-là aussi parce que c'est un format qui est accessible à beaucoup de coureurs.
Un challenge qui pourrait s'ouvrir à d'autres épreuves se déroulant sur le territoire.
On a pensé à ce qui se fait du côté des pénitents d'Aimée, on pense à l'Otis Sim Trail qui a eu lieu l'an passé à Digne par exemple, et puis d'autres s'y sont créés sur le territoire, mais on a aussi derrière la tête, dans les cartons, l'idée et l'envie d'un grand trail, d'un grand, pourquoi pas ultra trail, qui traverserait la totalité de notre géoparc, du lac de Sainte-Croix, donc de Moustier par exemple, jusqu'aux crêtes de Dormillouz, en passant par les monts, par tout ça. Il y a vraiment un territoire qui s'y prêterait tout à fait quand on voit ce qui se fait en France sur des territoires comparables autour de Serre-Ponçon, en Corse, etc., etc. Je pense qu'on n'a rien à envier à ces gens-là et qu'on a vraiment un territoire qui s'y prête.
La participation au challenge est gratuite et automatique pour les coureurs régulièrement inscrits. Tous les participants aux épreuves du challenge se voient automatiquement attribuer des points. Pour participer au classement du challenge, il faut impérativement avoir été classé sur au moins deux épreuves du challenge. Les points sont attribués selon le classement scratch de chaque épreuve distinctement pour les masculins et les féminines et indépendamment de la catégorie d'âge.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.